Gloire à Dieu, on a empiété un peu sur le temps alloué pour le message, mais par la grâce de Dieu, on va passer à travers parce que je crois que c'est un message important que tout le monde doit connaître, parce que ça va nous permettre de saisir des promesses de Dieu pour un sujet particulier.
Amen.
Première question, combien est-ce qu'il y en a ici qui sont sans péché? Qui c'est ici qui n'a pas besoin? Mais je montre l'exemple. Levez votre main. Levez votre main ceux qui n'ont aucun problème dans leur vie. Levez votre main ceux qui n'ont pas de combat, qui n'ont pas de lutte avec des gens du dehors. Levez votre main, vous n'avez pas des problèmes dans votre corps, des sortes des chaînes, des liens. Vous êtes enfargés, vous avez de la difficulté, ça va mal. Bon, mais je pense que je m'adresse au bon public. Parce que le message va être pour ceux qui en ont besoin. Gloire à Dieu. Si vous auriez levé votre main et dit vous n'avez pas besoin de rien, j'aurais fermé mon message, puis là, on aurait peut-être loué le Seigneur par une coupe de chant, mais pour rendre gloire à Dieu qu'on est tout arrivé là, mais on n'est pas encore tout arrivé à ce niveau-là, qu'on n'a plus de problème. Aujourd'hui, le titre du message, qui est une suite de saisir les promesses de Dieu, pour être délivré. Ça, le mot délivré, c'est un petit mot, mais ça l'englobe un paquet de choses qu'il faut comprendre dans la parole de Dieu. Croyons-nous que Dieu peut encore délivrer ceux qui en ont besoin?
Amen.
Parce qu'il y a plein de gens qui sont captifs de quelque chose, puis en fin de compte, tout le monde, je crois que tout le monde est captif de une et plusieurs choses. Faut comprendre ce matin là que la Bible est pleine de paroles pour stimuler notre foi dans les promesses de Dieu. Même pour ce niveau-là, pour être délivré. Dieu a donné plein de promesses à ce sujet-là. Pour vous introduire au message, je veux vous lire un passage qui n'a pas nécessairement rapport avec le fait que de délivrance. Mais le premier verset, ça va être dans le but de comprendre que quand tu saisis par la foi une promesse, Dieu le fait. Puis on va voir l'histoire dans un passage, dans quelques versets, d'une jeune fille d'environ 12-13 ans, qu'un ange lui a apparu, puis elle a reçu un message qui est extraordinaire, puis elle a dit « qu'il me soit fait selon ta parole ». On regarde ça dans Luc, le chapitre 1, le verset 30. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu veut augmenter notre foi pour saisir les promesses de Dieu. Bien entendu, on parle de l'histoire de Marie, la mère de Jésus, quand que l'ange lui a apparu pour lui aviser qu'elle tombera enceinte du Sauveur de ce monde. L'ange lui dit, ne crains point, c'est au verset 30, Marie, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte. Elle n'avait pas de mari. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, puis la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth. Là, on voit dans cette passage, jusqu'à là, que l'ange, il donne sa promesse. C'est une prophétie. Il est en train d'y annoncer quelque chose qui va se produire dans la vie de Marie. Marie, je dis pas qu'elle avait des doutes, mais elle avait des questionnements à savoir comment est-ce que ça va s'accomplir. Elle voulait savoir quelles sont les étapes. Faut-tu que je me marie? Faut-tu que j'aille voir un tel? Tu sais, elle cherchait des réponses. Mais pour augmenter sa foi, pour augmenter la foi de Marie, l'ange lui a raconté un miracle qui s'était produit dans sa famille. Il dit, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu.
Alléluia.
Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Même si Élisabeth était stérile, était dans sa vieillesse, Dieu lui a accordé d'avoir un enfant. Mais c'est pas pour rien que l'ange dit ça à Marie, juste au moment qu'elle est en train d'y annoncer qu'elle tombera enceinte. Elle a dit comment ça va se passer. Il a dit dans ses mots, là, l'ange, il a dit, cherche pas d'homme, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va te toucher. Là, il dit, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Crois seulement ce que je suis en train de te dire. Ça a-t-il été important que Marie croie à l'ange? Qu'est-ce qu'on voit dans Luc 1, 45? Là, on voit que Marie est allée voir sa cousine. Élisabeth, sa parente, c'est peut-être pas sa cousine, mais c'est sa parent. Puis là, au moment qu'elle est arrivée, ça nous dit dans la Bible, d'un verset au-dessus du verset 45, ça dit que Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit, puis elle a commencé à parler à Marie. Puis là, la phrase au verset 45 est importante. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. C'est là qu'est le point, frères et sœurs. Marie a cru à ce que l'ange lui a dit. Je dis pas qu'elle n'a pas eu raison de croire. Oui, elle a eu raison de croire, puis elle avait des preuves pour croire. L'ange lui a dit, tu vas tomber enceinte, ça ne sera pas par un homme, c'est le Saint-Esprit qui va toucher. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Une preuve de ça, regarde ta parente qui était stérile, dans sa vieillesse, est tombée enceinte. Regarde le miracle que Dieu est capable de faire. Fait qu'il a dit, crains pas, Dieu est avec toi. Crois seulement, c'est ça qui était le point. Il voulait l'amener à croire. Il voulait amener Marie à croire, puis à saisir la promesse. Puis quand Marie est allée voir sa parente, il a dit, par le Saint-Esprit, heureuse celle qui a cru, parce qu'à cause qu'elle a cru, c'est ça que ça nous dit. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Ce que je veux qu'on comprenne ce matin, ce que je ne sais pas que ce que je veux, parce que j'ai quasiment tombé à terre quand le Seigneur m'a montré ce point-là, parce que je l'avais jamais vu, ce point-là, je l'ai compris en préparant le message. Dieu, il y a plein de promesses qu'il veut nous donner. Mais les promesses, ils rentrent en action dans notre vie au moment qu'on croit à la parole qui est annoncée. Et Dieu fait des miracles, des signes, des prodiges autour de nous. On a entendu plusieurs ce matin des choses que Dieu a faites, mais que Dieu va faire, oui, mais que Dieu a faites, puis on a entendu dans notre vie. Pourquoi qu'il nous ramène cela? Parce qu'il veut augmenter notre foi pour qu'on saisisse encore plus ses promesses. Dieu veut que quand on se parle les uns les autres, qu'on s'édifie, qu'on se dise des choses. As-tu su qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Puis l'autre, oh non. Puis là, quand ils entendent ça, ça booste leur foi. Puis là, à leur tour, ils peuvent saisir des promesses et expérimenter des choses, puis le confier aux autres. Puis c'est là que le peuple de Dieu grandit. Dieu accomplit toujours ses promesses quand les gens les saisissent par la foi. C'est ça qui est important, frères et sœurs. Là, on est en train de parler de saisir les promesses de Dieu pour être délivré. Là, on va voir que dans la parole de Dieu, il y a des versets qui nous parlent que Dieu il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous délivrer. Jésus est venu pour délivrer les captifs. Il n'y a pas juste ça, il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, pour nos guérisons, pour qu'on puisse obtenir des guérisons, et aussi pour qu'on puisse être délivré. Pour comprendre comment est-ce qu'on peut obtenir les délivrances, il faut savoir que Jésus était celui qui a été oint puis envoyé de Dieu dans ce but-là. Parce que les guérisons, les délivrances, même le salut, tout se passe en Jésus seul. C'est Jésus qui est le oint, le Messie, celui qui est envoyé pour nous donner tout ce qu'on a de besoin dans notre vie. Dans Luc 4, 18, ça nous dit que Jésus lui-même a pris ce passage-là pour dire « Que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. » Qui sont les captifs? C'est tout le monde qui a besoin d'être délivré de quelque chose. C'est qui, en fin de compte? C'est pour moi et pour chacun de nous qui sommes ici. Vous me l'avez dit tout à l'heure. Vous avez tous de besoin que Dieu il vous délivre de quelque chose. Donc, il est venu pour délivrer les captifs. Donc, il est venu pour vous. Il est venu pour vous pardonner, il est venu pour vous guérir, mais il est venu aussi pour nous délivrer. C'est ça qu'on va regarder ce matin. Puis Dieu veut qu'on mette notre foi dans ses promesses. Il est venu pour moi. On est-tu capable de dire ça? Il est venu pour moi. Il est venu pour me sauver. Il est venu pour me guérir. Il est venu pour me délivrer. Amen. La première chose qu'il faut comprendre dans son travail, dans son ministère de délivrance que le Seigneur est venu accomplir, il y avait l'onction pour la faire, mais pour que ça soit le saut final sur tout l'ouvrage qui aura dû être fait, passé, présent et futur de ce temps-là, il fallait que Jésus meure à la croix. On va aller voir comment est-ce que la mort de Jésus est nécessaire pour affranchir l'humanité des liens du péché et de ses conséquences. Dans Colossiens 2:13, ça parle à des chrétiens. Vous qui étiez morts, fait qu'on était tous des morts, spirituellement parlant. Nous qui étiez morts, qui vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Gloire à Dieu. On était tous morts. Mais à cause de Jésus, il nous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Comment cela a-t-il été possible qu'il fasse grâce de toutes nos offenses? Ça le dit au verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Qu'est-ce que c'est cet acte-là qui était là et que les ordonnances de cet acte étaient contre nous? Un acte, puis j'étais voir dans le grec, un acte, c'est la même chose qu'un acte notarié. C'est un contrat qui décrit les clauses, puis les conséquences, tout est écrit dans l'acte, mais c'est basé aussi sur la loi. Fait que selon la loi, il y a des actes, à chaque fois qu'on a péché, c'était écrit, on a commis tel péché, on devait obtenir telle conséquence. Puis là, on attaque, là. Croyez-moi, pour la mienne, en tout cas, elle est longue. Je sais même pas si je prendrais une feuille. Je n'aurais même pas assez long de dérouler la feuille dans la pièce-ci pour tous les péchés que j'ai faits dans ma vie. On rouvrait la porte en arrière puis la porte en avant, puis ça serait même pas encore assez long. On a fait à la tonne des péchés. Puis Dieu, devant Dieu, il y avait un acte qui était écrit, puis c'était l'ensemble de tous mes péchés. Et les conséquences de mes péchés. Qu'est-ce qui était le salaire du péché? La mort. Combien de fois j'aurais dû être mort? C'est incalculable. Dieu le sait, mais nous, c'est impossible de réaliser la profondeur ou la grandeur de cet acte notarié-là devant Dieu, qui était là et qui était contre nous. Mais Jésus, en mourant sur la croix, ça nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus a tout effacé, la liste de tous mes péchés, de tout ce qui était les conséquences aussi de mes péchés, en mourant sur la croix. Wow! La distance, c'est ce qui nous séparait de Jésus. En réalité, c'est ça qui épaississait le mur de notre communion avec Dieu. Plus qu'on est pécheur, plus que le mur est épais pour atteindre Dieu. Ça nous dit dans ce passage-là aussi, qu'il l'a détruit en le clouant à la croix. Cet acte-là de toute la liste de mes péchés et toute la liste de chacun de vous, vous n'aviez une liste, là. Puis ça, en mourant sur la croix, il a effacé cette liste-là d'avance, avant même qu'elle soit faite, parce qu'on était même pas au monde. Il a détruit cet acte-là en mourant sur la croix. Et le verset 15, ça nous dit qu'en mourant sur la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrés en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quelles sont ces dominations et ces autorités-là? Le diable, le prince de la puissance de l'air. En mourant sur la croix, Jésus a effacé la liste de tous vos péchés et de ses conséquences, et il a dépouillé, ça veut dire qu'il a enlevé la peau. Comme un animal, tu le dépouilles, tu enlèves sa peau. Fait que le diable, tout ce que le diable se servait pour nous accuser, pour nous tiennelier, pour nous attaquer, pour avoir accès dans notre vie, tous les péchés qu'on avait ouvraient au diable un droit légal de pouvoir agir dans notre vie, comme qu'il voulait. Fait que Jésus, en mourant sur la croix, il a dépouillé la puissance des ténèbres de toutes les armes qu'elle avait pour nous tenir captifs. C'est là que ça s'est passé, frères et sœurs. À sa mort sur la croix, le pardon a pu être accessible à l'ensemble de l'humanité, et pas juste le pardon, la délivrance du diable et de toutes ses emprises. Tout est là, tout est accompli déjà, frères et sœurs. Lorsqu'une personne reçoit le Christ dans sa vie, quand une personne réalise qu'elle est pécheur devant Dieu, puis que là, qu'elle comprend que Jésus est mort sur la croix pour effacer ses péchés, là, elle l'accepte. Elle dit, oui, je le veux que Jésus soit mon sauveur et mon Seigneur. Je veux le suivre, je veux le servir. Puis là, il dit qu'il te donne son Saint-Esprit. Puis là, tu peux marcher avec lui dans ce monde. Puis c'est un cadeau qu'il te donne. Puis la Bible dit qu'à partir de ce moment-là que tu le reçois, à partir de ce moment-là que tu l'acceptes, t'es pardonné de tous tes péchés, il te donne le Saint-Esprit, puis le diable, là, il n'y a plus de droit légal d'agir dans ta vie. Puis ça nous dit que t'es rendu une nouvelle créature. Parce que l'ancien Daniel Poulain, il était un pécheur, esclave du diable. Je vivais dans le royaume des ténèbres. Puis à cette heure que j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur m'a changé de camp. Maintenant, je suis parti de ceux qui vivent dans le royaume de la lumière. Amen. J'appartiens au Seigneur Jésus-Christ, comme vous tous d'ailleurs. Amen. Vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Vous êtes sauvés. Vous faites partie de sa famille. Vous êtes dans son royaume. Maintenant, tout l'acte est disparu, est effacé. L'acte qui nous condamnait. Et le diable, il n'a plus de droit légal d'agir sur vous et sur moi. On est une nouvelle créature maintenant, le nouveau Daniel Poulain. Vous pouvez dire la même chose en confessant votre nom. Le nouveau Pierre-Jean-Jacques. Ah ben, la celle qu'ils vous ont donnée. Tout ce qui est ancien, ça nous dit là qu'on est une nouvelle créature. Ce qui est ancien est disparu. Et ce qui est nouveau est déjà là. Ça, on voit ça dans la traduction, le Sommeur, dans 2 Corinthiens 5, 17. Fait que ce qui est ancien de votre vie, c'est disparu, vos péchés, puis tout ce qui était des liens ancestraux, et tout le bagage qui nous tient captifs. Maintenant, en Jésus-Christ, tu es une nouvelle personne, puis tu es sorti de là. Mais pour continuer dans ce sens-là, pour le secret pour obtenir les délivrances une fois que tu es chrétien, parce que on s'aperçoit assez rapidement qu'il y a des choses qui ont tombé tout de suite quand on a accepté Jésus-Christ, puis il y en a d'autres qui sont restées là, qui sont pas toutes parties. On n'est pas tombé parfait en pratique. En spirituellement parlant, oui. La justice du Christ nous recouvre, nous sommes justes aux yeux de Dieu spirituellement. Mais dans notre marche de tous les jours, nous péchons encore. Puis là, comment est-ce qu'on fait pour obtenir ces délivrances-là, des choses qui sont restées, puis qui sont collées après nous, puis qui ne sont pas encore parties. Pourtant, le Christ a tout accompli. Le secret pour obtenir les délivrances, elles s'obtiennent que par l'entremise de Jésus-Christ. C'est lui qui a tout accompli, on lui appartient. Quand il est mort, il nous a rachetés, il a payé le prix, maintenant, on lui appartient. Il nous a sortis des ténèbres, nous a emmenés dans son royaume, puis maintenant, tu es la propriété de Jésus. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Il peut te nettoyer, te laver à sa guise comme il le voudra. Mais comment est-ce qu'on procède pour arriver à avoir un lavage complet dans notre vie, pour être débarrassé de tout ce qui nous tient encore captif, même X années plus tard? Il y a deux, trois versets. Dans Jean 8, 31, ça en est un. Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La vérité va vous rendre libre, que ça nous dit. Pourtant, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça veut dire, on commence déjà par être un disciple en demeurant dans sa parole, et c'est en demeurant dans sa parole qu'on va connaître l'affranchissement. Ça veut dire qu'on n'a pas été tout affranchi en acceptant Jésus-Christ. On l'est en persévérant dans la parole de Dieu, qu'on découvre au fur et à mesure de notre vie, qu'on est délivré de cela, on est délivré de cela au fur et à mesure. Des fois, c'est 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, au fur et à mesure qu'on persévère dans sa parole, il continue à nous affranchir de toutes les choses qui ont besoin d'être sorties de notre vie. Mais le saut va être complet, le saut final, c'est à son retour. Là, c'est sûr que si on le voit retomber, on se ramasse avec lui, notre vieil homme, il s'est disparu. La chair et le sang n'héritent pas du royaume. On s'en va là, sur un nuage, rencontrer le Seigneur, puis il nous ressuscite dans un corps céleste, un corps qui ne meurt plus, qui n'est plus lié avec aucun des problèmes de cette vie. En attendant, Jésus nous invite à persévérer dans sa parole, puis là, on va connaître la vérité, puis la vérité va nous affranchir. Puis ça nous dit, le verset 34, il dit, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mais le verset 35, il dit, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Où est-ce que je dois aller si je veux être délivré? Si le fils m'affranchit, je serai réellement libre. Donc, frères et sœurs, il n'y a pas de délivrance possible en dehors que par Jésus-Christ. C'est lui qui est le propriétaire de notre vie. On lui a donné en se convertissant. C'est lui qui va entreprendre l'ouvrage. Mais il nous demande de persévérer dans sa parole. Une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, tu es né de nouveau, tu as commencé à persévérer dans sa parole. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner ce que Jésus a acquis à la croix. C'est pas des pilules, c'est pas des prescriptions, c'est pas un psychiatre qui va nous donner d'être délivré. Il y a juste le Saint-Esprit qui peut faire que la parole de Dieu s'accomplisse en nous et que les délivrances s'accomplissent. Où est-ce qu'on voit ça? 2 Corinthiens 3, 17. Si j'ai pas fait d'erreur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est quand le Saint-Esprit est là, c'est là que la liberté. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous allez connaître la vérité, puis la vérité va vous rendre libre. Puis là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ça veut dire que c'est dans l'Esprit de Dieu qu'on peut obtenir tout ce que Jésus a accompli à la croix. Il dit dans le verset 18, « Nous tous, qui le visage découvert, on contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. » Fait qu'en regardant dans la Bible, on demeure dans sa parole, on comprend c'est quoi l'image du Seigneur, puis parce qu'on demeure, on comprend donc, on est en train de connaître la vérité. Puis là, la vérité va nous rendre libres. C'est qui la vérité? C'est l'Esprit de vérité qui va nous rendre libres, qui va nous rendre en nous transformant de gloire en gloire pour qu'on ressemble de plus en plus à Jésus. Donc, Jésus est celui qui peut nous délivrer. Il a tout accompli qu'on soit délivré. Puis quand tu te convertis au Seigneur, il te donne le Saint-Esprit qui te permet d'expérimenter cette délivrance. Amen.
Amen.
Croyons-nous que Dieu peut encore délivrer ceux qui en ont besoin?
Oui.
Bon. On va faire comme une petite parenthèse. Quels sont les domaines que nous pouvons profiter de son œuvre, d'une œuvre de délivrance en nous. Il y a plusieurs domaines que l'Esprit de Dieu veut faire l'ouvrage. Premièrement, nous avons besoin d'être délivrés de notre chair et de ses péchés. Parce que si on est franc, puis même il y a un verset qui nous le dit, on va le lire après, mais on a tous encore des péchés. Même si ça fait 20 ans que tu es chrétien, t'en fais encore. Tu combats contre ça, tu résistes contre le péché, tu demandes à Dieu de t'aider, tu demandes que le sang de Jésus te purifie, tu renonces, mais on en fait encore. Pas volontairement. On les fait parce qu'on a un corps que le péché est en nous. Puis c'est ça que ça nous dit dans Romains 8, 11. On va voir l'action du Saint-Esprit là-dedans qui va rendre la vie à nos corps mortels. Mais c'est pas juste à la résurrection, c'est dans notre vie terrestre que le Saint-Esprit commence déjà à nous délivrer, puis nous guérir, puis nous transformer pour qu'on vive la vie, une vie nouvelle en Jésus-Christ. Ça nous dit dans Romains 8, 11, « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Ainsi donc, si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même pour vivre à sa manière. Mais si vous vivez à la manière de l'homme qui est livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voyez-vous, il nous présente deux hommes. Il y a l'homme livré à lui-même. Ça veut dire l'homme qui marche sans Dieu. L'homme qui n'a pas besoin de Dieu dans sa vie, qui se pense capable, qui se pense autosuffisant. Il n'a pas besoin d'aide, il pense qu'il est correct. Ça, c'est l'homme livré à lui-même. Il dit, si tu marches de cette façon-là, tu vas mourir. Ça parle à des chrétiens. Mais il dit le contraire, si tu as reçu l'Esprit parce que tu lui appartiens, là, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Donc, le Saint-Esprit est la vérité. Il est là pour faire mourir les actions de notre corps. Il faut réaliser que dans notre communion intime avec le Seigneur, dans notre communion que nous avons tous les jours avec lui, quand nous marchons sur cette terre, il faut être à l'écoute et dans l'attente à ce que le Saint-Esprit continue son œuvre pour nous transformer, pour qu'on arrive à devenir de plus en plus comme Jésus. Puis il faut qu'il fasse mourir des actions dans notre corps. Puis il va nous les montrer. Il va nous les montrer, puis il va nous le dire. Faut que tu coupes ça, faut que tu arrêtes ça. Puis là, t'as un combat, puis là, des fois, on s'obstine à vouloir conserver des affaires. Il nous le montre, des fois on obéit tout de suite, puis on est d'accord, puis on avance, puis on aime ça, obéir, puis on veut tout lâcher pour le Seigneur. Mais il y a d'autres fois, il y a un tiraillage. Il nous le montre, puis c'est l'Esprit qui est en train d'agir, puis il veut nous amener à ce qu'on ressemble à Jésus. Puis il faut lui faire confiance. Il ne nous demandera pas de changer des choses pour rien. Il y a un but dans notre vie. Il y a un plan déjà tout tracé, il y a un appel sur chacun de vous, puis il veut que vous soyez intégrés à son plan, puis à faire les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Puis pour cela, il faut vous laisser le Saint-Esprit, vous amener à être le candidat choisi par Dieu dans les capacités, les dons que vous aurez besoin pour accomplir cette tâche-là. Puis si vous avez des choses qui n'est pas de Dieu dans votre vie, il faut apprendre à écouter l'Esprit de Dieu, à faire mourir ces choses-là. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Si on ne croit pas cela, on passe à côté du seul moyen d'être délivré. Il n'y a pas d'autre. Dans 1 Jean 1,8, ça nous dit, « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et purifiera de tout mal que nous avons commis. » Ça parle à des chrétiens, ce verset-là. Ça parle pas à des gens dans le monde. Nous en faisons encore, faut être capable de les admettre puis de les remettre au Seigneur puis de croire que le sang de Jésus nous pardonne et nous purifie Il enlève ça de notre vie, le péché. Il veut nous purifier. Il veut pas juste nous pardonner. Il veut nous pardonner et nous purifier. Il faut se laisser purifier. Il veut nous rendre purs dans notre conduite. Un autre domaine que nous avons besoin d'être délivrés, c'est du diable. Oups, il parle du diable. Mais il faut en parler du diable. On n'ignore pas ses desseins. La Bible en parle, puis il faut répéter ce qu'il fait pour pas se laisser piéger. Dans Actes 10, 38, ça nous dit comment est-ce que Dieu avait oint d'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Fait que si vous avez des problèmes avec le diable aujourd'hui, tout le monde a des problèmes avec le diable aujourd'hui, ça nous dit dans la parole, résistez au diable, on sait que les mêmes souffrances sont imposées à tous nos frères dans le monde. Bon, mais si vous avez affaire avec le diable, vous avez des combats et des luttes, il n'y a qu'un seul qui peut vous délivrer de vos combats et de vos luttes. C'est encore le Seigneur Jésus-Christ. On voit ça dans Luc 13, 16. Jésus est en train de délivrer une femme qui est accourbée depuis 18 ans. Puis il dit, cette femme qui est une fille d'Abraham, cette femme-là, c'est une fille qui marchait dans la foi, en marchant dans la foi au Seigneur Jésus-Christ, dans la foi du Messie qui était pour venir. Je peux pas aller jusqu'à dire qu'elle avait reconnu Jésus. Peut-être que oui. Puis d'après moi, oui, parce qu'elle était à Jésus. Il dit, Satan y a tenu lié depuis 18 ans, puis ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Quand on est attaqué par le diable, il y a plusieurs raisons pourquoi on est attaqué par le diable. Je n'aimerais pas toutes les raisons. Chaque point, là, ça pourrait être une étude d'une prêche au complet. On fait juste un survol. Mais on est attaqué par le diable, par toutes sortes de choses, mais il nous tient captifs par la suite. C'est une chaîne qui nous met après nous. Puis là, on a de la misère à avancer, ça va mal. On traîne des fardeaux, on traîne des liens, il y a quelque chose qui nous ralentit. On n'est pas dans la joie, dans la plénitude. On vit attaché. Jésus peut casser les chaînes et briser les liens. Amen. N'importe quel, si c'est dû à cause d'un péché, vous le confessez à Dieu, il vous pardonne, il vous purifie, puis il vous casse la chaîne dans le nom de Jésus-Christ. On voit aussi dans Matthieu 6, 13, qui est à la prière du Notre Père, il dit, quand il nous enseignait à prier, ça dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça veut dire que les chrétiens doivent demander à Dieu, délivre-nous du malin. Ça veut dire qu'on a tous à un moment donné des attaques du malin. Mais on demande à Dieu l'aide nécessaire pour éteindre ces attaques, pour renverser les attaques. Il faut demander à Dieu, il n'y a rien qu'à lui qu'il faut regarder. Oui. Un autre point qu'on fait juste des survols, on a besoin d'être délivré avec les conflits des gens de ce monde. Il y en a qui n'ont peut-être pas de conflits, ils sont en paix avec tous les hommes, gloire à Dieu. Mais il y en a qui ont des conflits avec les gens du monde. Il y a des ennemis qui font des méchancetés envers les chrétiens, puis ils vivent des conflits. Puis dans Luc 1:111, ça nous dit qu'il y a un sauveur, ça parlait de Jésus, ça pourrait être un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. On a le droit de croire qu'on peut être délivré des situations qu'on vit avec les gens dans ce monde. Les gens dans ce monde essayent de nous tomber dessus, de nous traîner en cour, de nous faire vivre toutes sortes de choses, de nous haïr, de parler en mal contre nous. Nous pouvons croire que Jésus peut briser ces choses-là, les problèmes qu'on a avec le monde. Ça fait partie des choses qui nous enfergent, puis ça nous retient, puis ça nous écrase, puis on revient tout croche quand on sent qu'on est attaqué tout le temps. On a besoin de croire que Jésus-Christ peut briser cela et renverser les plans des mauvaises personnes. Dans Actes 12, 11, on voit justement Pierre qui était sorti de prison parce que les gens ont prié pour lui. Les gens avaient capturé Pierre, il l'avait mis en prison. Puis là, l'Église priait pour lui, pour qu'il puisse sortir. Puis là, il dit, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de ce que tout le peuple attendait. Voyez-vous, il y a des méchantes personnes qui voulaient tuer Paul, là, Pierre. Ils voulaient le tenir captif, ils venaient tuer Jacques, puis ils voulaient capturer Pierre, puis ils voulaient le mettre à mort, lui, avec. Fait que les gens ont formé des plans pour attaquer Pierre, puis les gens, les chrétiens ont prié. Pierre est sorti de prison, puis après ça, il a vu comment est-ce que Dieu l'avait délivré de ses ennemis. Fait que Dieu peut nous délivrer de ce qu'on subit à partir de ce que le monde nous fait, nous attaque, il nous ridiculise, il nous persécute, il nous parle dans le dos, il veut nous traîner en cour. Il y en a qui doivent de l'argent, ils veulent pas payer. En tout cas, il y a toutes sortes d'affaires qu'on peut être attaqué dans ce monde. Mais Dieu, il est capable de renverser toutes ces choses-là et nous donner justice. Amen. Les premiers chrétiens sont mis à prier, puis prier encore. Combien de temps qu'ils ont prié? Il est encore en train de prier que Pierre, il frappe à la porte. Ils n'ont pas cru qu'il était délivré. Mais tout ça pour dire qu'ils priaient tant que c'est pas encore complet, là, que ça soit fait. Continuons à prier, Dieu est capable de nous délivrer. Il peut nous délivrer aussi, celle-là, là, des liens de notre attitude rebelle qui nous enchaînent puis qui nous rendent malheureux. C'est basé sur un passage dans l'Ancien, dans le psaume 107, le verset 10. Des fois, on est malheureux, puis c'est pas à cause du diable, puis c'est pas à cause du monde, c'est pas à cause de nécessairement de péché qu'on a tombé dans un péché. On est malheureux de nos attitudes. On voit ça dans le psaume 107, le verset 10. On est malheureux à cause de nos attitudes. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'il s'était révolté contre les paroles de Dieu, parce qu'il avait méprisé le conseil du Très-Haut. Là, ça dit que c'est Dieu, il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Mais, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes des reins et rompu les verrous de fer. Voyez-vous qu'est-ce que Dieu peut faire quand quelqu'un crie à Dieu?
Il répond.
Gloire à Dieu, c'est la meilleure réponse. C'est vrai. Quand le peuple de Dieu prie, Dieu agit. C'est biblique, il s'attend à ce qu'on le fasse. Mais quand les gens sont liés, étaient dans les ténèbres, puis étaient dans la misère, puis étaient pris par des chaînes, c'était à cause qu'ils s'étaient révoltés contre la pensée de Dieu, contre la parole de Dieu. Ça veut dire que par nos attitudes, notre manière de vivre, notre manière de penser, puis qui est pas conforme à la parole, on se crée des liens puis des chaînes, puis après ça, on est triste, on est angoissé. On est angoissé, puis on a des souffrances intérieures, notre âme ne file pas. Puis c'est à cause qu'on a notre attitude qu'on n'écoute pas ce que Dieu nous demande. La minute qu'on se met à crier à Dieu, ça dit il les délivrera de leur angoisse. Puis il était dans les ténèbres, il a rompu. Les ténèbres le tenaient captif, il a rompu les chaînes. Le Seigneur est capable de rompre n'importe quelle chaîne que vous avez. Il n'y a pas de chaîne trop grosse qui peut vous retenir. Tout est accompli à la croix pour qu'on ait une entière délivrance sur tous les points de notre vie.
Amen.
Le plus important de ce qui peut nous délivrer, Seigneur, c'est de nous délivrer de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1:10, on attend des cieux son Fils qui a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Ça veut dire que Dieu, il est pas content de la manière que ça se passe dans le monde. Autant qu'il est heureux de voir ses enfants Les gens qui marchent par la foi puis qui s'accrochent à ses promesses, ça, ça bénit Dieu au bout, puis il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Il est heureux. Mais il regarde l'ensemble du reste de l'humanité qui se rebelle contre sa parole, contre sa volonté, puis il est triste, puis il est en colère. Puis il a fixé un jour où ce que Jésus-Christ va revenir, puis la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Puis le jugement final pour ceux qui se rebellent puis qui meurent dans leur péché parce qu'ils n'ont pas été à Jésus-Christ, c'est qu'ils vont le payer d'être séparés d'avec Dieu pour l'éternité à cause de leur péché. Dieu avait tout accompli pour qu'ils soient libres, mais Dieu veut pas envoyer personne dans les temps de feu. Il a envoyé son Fils mourir sur la croix afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, c'est tout le monde. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais il y a des gens, même en connaissance de cause, ils en entendent parler, ils veulent persévérer. Mais Dieu, il a fixé un jour ce qu'il va établir sa colère sur ces gens-là. Et nous, à cause qu'on appartient au Seigneur, le Seigneur nous délivre de la colère à venir. Si tu veux croire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, ça ne fait pas juste pardonner tes péchés, ça te délivre. Tu as une possibilité de vivre dans la liberté et la gloire d'un enfant de Dieu, 100% libre, à pouvoir vivre en communion avec l'Esprit-Saint et de pouvoir expérimenter des choses extraordinaires dans l'attente sur ce qui va venir nous chercher. Puis on est épargné, on est épargné de la colère à venir. On ne sera pas visé par le jugement. Et celui qui l'a reçu vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Dieu peut intervenir même si les hommes ne peuvent rien faire. Vous avez des angoisses, des problèmes, des liens, des péchés. On aimerait trouver une solution, qu'un char 20 piastres, sors moins de mes péchés. Tu peux pas acheter rien. Il n'y a personne. Mais même, je serais prêt à mettre 100. Et là, le reste, il faudrait que je m'endette pour en mettre plus. Les hommes peuvent rien. Tout ce que je vous ai nommé, là, les hommes peuvent rien. Peut-être qu'un psychologue va vous raisonner pour vous aider à accepter votre état. Mais c'est pas ça qu'on a besoin. On veut pas accepter notre état. On veut s'en sortir. On veut être libéré. On veut être libre pour servir le Seigneur de tout notre cœur. Puis de la joie dans le cœur. Puis être heureux d'être chrétien. Puis de le proclamer aux autres qu'est-ce que le Seigneur fait pour nous. Amen.
Amen.
Fait qu'il dit, Jésus dans Marc 10, 27, il dit, c'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Il n'y a rien de ce que vous vivez que Dieu n'est pas capable d'agir. Il n'y a rien de ce que vous vivez que Dieu n'est pas capable de vous en sortir.
Amen.
Peu importe nos besoins, on ne fait pas une compétition qui a les plus gros besoins, il nous appelle tous à aller devant son trône de grâce. Ça nous le dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu nous appelle tous à se présenter devant le trône, puis d'implorer le Seigneur, puis il dit, Seigneur, sors-moi de là. Puis Dieu va nous regarder, puis il va dire, oui, je le veux, sors, puis là, il va nous sortir par sa puissance. Il a tout accompli pour qu'on puisse l'avoir pleinement dans notre vie. Je vais vous lire pour finir quelques versets rapidement pour vous démontrer que quand on crie à Dieu, Dieu exauce. Psaume 120, le verset 1. « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie, et il m'exauce. » Gloire à Dieu. Dans Nombre 20, 16, « Nous avons crié à l'Éternel, il a entendu notre voix, puis il a envoyé son ange, puis il nous a fait sortir d'Égypte. » On voit qu'il brise les chaînes des dictateurs. Dans le Psaume 30, le verset 2, ça nous dit, « Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. » Gloire à Dieu. Dans le Psaume 107, le verset 13, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Vous avez des détresses? Vous êtes angoissés? Le spécialiste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Psaume 34, 6, il dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Gloire à Dieu. Psaume 34, le verset 4. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » T'as peur? T'as des peurs. Tu peux avoir des peurs de la nuit, peur de marcher dans la rue, peur de... Peu importe la peur, Dieu peut t'enlever toutes tes peurs. 2 Samuel 22, 47. Il me fait échapper à mes ennemis. Il dit, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent. Ça veut dire quand tu es attaqué, persécuté, ou même si tu as un mari qui serait difficile envers toi, un homme violent. Mais sache que Dieu peut, il peut te faire échapper de tes ennemis et de tes adversaires, puis il peut renverser ces situations-là. Puis le dernier passage, 2 Pierre 2, le verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Il y a un point en commun dans tous ces passages-là. Mais j'en dirais deux. C'est que Dieu répond. Dans tous les points que j'ai emportés, là, Dieu répond. Il peut vous guérir, il peut vous sortir de l'Égypte que vous vivez, il peut vous enlever vos angoisses, vos détresses, vos frayeurs, vos adversaires, puis vos épreuves. Puis il va le faire. Mais l'autre point en commun qu'il faut pas oublier dans toute la gang, c'était écrit, j'ai cherché l'Éternel, ils crièrent à l'Éternel, le malheureux crie, puis il dit, j'ai crié à toi, puis nous avons crié à l'Éternel. Dans tous les passages, ça parle de personnes qui s'adressent à Dieu pour demander leur délivrance. C'est là que ça se passe. Le trône de la grâce. Autant quand j'en ai parlé à la dernière prêche sur la guérison, saisir les promesses de Dieu pour la guérison, c'était la même affaire. Faut que tu ailles au trône de la grâce. Faut que tu cries à Dieu. Faut que tu demandes. Tout est accompli, oui, mais c'est pas encore encore fait dans ta vie. Crois, demande à Dieu, puis il va le faire. Prions. Père Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour toutes ces promesses qui nous démontrent ton cœur à vouloir nous amener à être libres de tout ce qui pourra nous empêcher, tout fardeau puis tout péché qui pourra nous retenir captifs dans ce monde. Tu veux nous amener à ce qu'on soit libre de tout, les ce soit du diable, du monde, des péchés, des angoisses, des tourments, des peurs, peu importe ce qu'on peut subir comme oppression. Tu veux nous amener à ce qu'on soit comme Jésus qui marche dans une communion avec son Père puis qui marche dans la victoire sans péché. Puis je te remercie pour cette vision que tu nous donnes et donne-nous, Seigneur, de saisir par la foi ces choses et continuer à prier, à intercéder et de s'attendre à ce que tu puisses le faire complètement dans nos vies. Je te remercie de ce que tu vas faire dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.